Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Libération de Amadou Aya Sanogo et co-accusé, est-ce la justice ou un arrangement? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir et nos invités sont Maître Cheikh Oumar Konaré, avocat de la défense, Maître Mokhtar Mariko au téléphone et docteur, qui est avocat des victimes, et Docteur Ali Tunkara, sociologue. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à ce débat.
Le Grand Dialogue.
Libération de Amadou Aya Sanogo et co-accusé. Maître Mokhtar Mariko, quel est l'avis des victimes sur cette décision de la Cour?
Je salue tous les téléspectateurs, tous les auditeurs de Sidio Tamani. Je vous remercie pour cette question. Nous, par rapport à cette question, nous avons deux sentiments. C'est-à-dire, on a un sentiment mythique. La première, c'est que les victimes que nous accompagnons sont restées pendant 7 ans sans recevoir aucune indemnisation. Mais de l'autre côté, en tant que militants des droits de l'homme, quand nous prononçons sur la détention provisoire qui a été anormalement longue, je dis bien anormalement longue, nous ne pouvons que s'en rapporter à la justice. Nous, ce que nous voulons, c'est que les intérêts de nos victimes soient sauvegardés. Et d'ailleurs, par rapport à cela, nous sommes dans un processus qui n'a pas abouti complètement, mais qui est sur les bons rails. Donc, nous n'avons pas grand-chose à dire par rapport à sa libération.
En tant qu'avocat des victimes, pensez-vous que c'est une justice ou que c'est un arrangement ?
Non, c'est de la justice, parce que la liberté provisoire ne met pas fin au procès. La liberté provisoire exige certaines conditions, c'est-à-dire est-ce que si nous nous laissons d'ici le temps du procès sur le front, est-ce que nous pourrons l'avoir pour le procès? Est-ce qu'il y a des conditions de représentativité? Est-ce que ça ne trouverait pas l'ordre public. À partir du moment où je suis en train de vous dire qu'un processus est en cours pour apaiser et abréger la souffrance et la douleur des victimes, je ne pense pas que ce soit un procès arrangé. Et surtout, les deux piliers de la lutte contre l'impunité sont, c'est-à-dire un procès équitable et deuxièmement, le droit à la réparation pour les victimes. À partir du moment où on nous a ouvert cette brèche pour aller à une réparation au profit des victimes, nous pensons que nous sommes sous les principes de la lutte contre l'impunité.
Certains pensent, Maître Cheikh Oumar Konaré, vous êtes l'avocat de la défense, que cette libération de Amadou Aya Sanogo est un arrangement entre l'État malien et également Amadou Aya Sanogo. Qu'en pensez-vous?
Je vous remercie. Ceux qui pensent cela devraient élargir le champ de leur réflexion. Pour une raison simple, c'est que la justice absolue n'existe que chez le bon Dieu. Avant de parler d'état de droit, il faut qu'il y ait d'abord un état. Croyez-vous possible de juger et de continuer à juger les militaires d'un pays alors que ce pays se trouve en guerre? Estimez-vous possible de juger des militaires au moment où on est en train de passer des accords avec des groupes armés qui ont pris les armes contre leur pays? C'est autant de crimes. Donc, essayons de nous asseoir et de trouver une solution au problème. Le gouvernement est là pour trouver des solutions aux problèmes. L'application de la loi est une partie de la solution, mais l'adaptation de la loi et de la justice est également une solution. Alors, dans le cas particulier du dossier Sanogo, la justice est en train de se faire. Moi, je me réjouis que les accusés obtiennent enfin leur mise en liberté. C'était de droit, dans la mesure où la loi, et notamment l'article 135 du Code de procédure pénale, dit clairement qu'en aucun cas, personne ne peut dépasser 3 ans, la durée de la détention privative ne peut dépasser 3 ans. En aucun cas, en matière criminelle. Donc, quel que soit le crime commis, vous avez droit à un procès équitable dans des délais raisonnables. C'est un des droits fondamentaux de l'homme. Si on ne peut pas vous juger dans les délais, on vous libère, en attendant qu'on soit prêt à vous juger. Les accusés ont déjà fait 7 ans de détention préventive. C'est au-delà de toutes les normes internationales et de toutes les normes légales au plan national.
Je reprends vos mots, vous l'avez dit.
Juste pour avoir
plus de précision sur cette question, vous disiez que pour qu'il y ait un état de droit, il faudrait d'abord qu'il y ait un état. Alors, est-ce que vous donnez raison à ceux qui pensent aujourd'hui que c'est la faiblesse de l'état qui a permis la libération de Amadou Aya Sanogo?
Je ne l'ai jamais dit. Je dis simplement que la direction que prennent les choses est une très bonne direction, parce que c'est cette direction seule qui permet de sauver ce qui peut être sauvé. La justice est un élément de l'État aussi. La justice n'existe pas ex nihilo. Ça fait partie des éléments de constitutifs de l'État. Alors, des gens ont été attaqués. Ceux qui ont attaqué, leur dossier est ouvert, il n'est pas encore jugé. Des gens avaient été arrêtés dans le cadre de ce dossier-là. Ils ont obtenu leur mise en liberté. Est-ce que quelqu'un a parlé? Maintenant, ceux qui ont été attaqués ont été arrêtés aussi. Alors, maintenant qu'ils obtiennent leur mise en liberté, pourquoi voudrait-on croire que ça, c'est de la politique?
On va poser la question à Dr. Ali Tunkara. Que pensez-vous de cette libération de Amadou Aya Sanogo et ses co-accusés?
Alors concrètement, lorsqu'on s'intéresse aux différentes opinions exprimées ça et là, hormis celles exclusivement du droit positif, naturellement, des grandes lectures sont observables. Un nombre important de Maliens, à l'issue de cette libération du général Sanogo et ses co-détenus, trouveraient que la justice malienne s'est redistribuée de manière inégalitaire, pour ne pas dire à géométrie variable. Mais dans le même temps, on a quand même un pan aussi important de population qui penserait que une telle libération du point de vue juridique n'a rien d'illégal. Mais fondamentalement, ce qu'on peut retenir du point de vue purement sociologique, lorsqu'on questionne un peu quand même la nature du fait et ce qui est reproché de part et d'autre, vouloir dire que sommes-nous dans un pays où la justice serait indépendante vis-à-vis de l'exécutif, une telle hypothèse est difficilement soutenable dans le contexte malien. On sait que M. Konaré a bien fait à Lison de parler de l'existence d'un État, prime abord, avant de parler de la justice. Je pense que ce qui est fondamentalement déplorable lorsqu'on regarde le quinquennat d'Ibrahim Boubacar Keïta, effectivement, l'État peine à asseoir sa légitimité vis-à-vis des populations, justement. Aujourd'hui, d'ailleurs, même la partie civile, elle a plutôt mis l'accent sur la dimension pécuniaire, le fait que les victimes seraient compensées, la procédure étant déjà déclenchée. Ça sous-entend quand même clairement, nous qui ne sommes pas du domaine, que, en tout cas, l'État s'est trouvé face à un dilemme. Faut-il maintenir des hommes et des femmes aujourd'hui dans les prisons, étant donné que légalement, ils ne doivent pas l'être? Ou faut-il les libérer, ou faut-il aller vers une justice équitable? Laquelle justice équitable, on sait pertinemment, elle va même concerner aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont au sommet de l'État. Vous voyez, donc c'était quand même un dilemme face à un État. Je pense qu'au bout du tunnel, la solution la plus plausible pour l'État central a consisté effectivement à les mettre en liberté provisoire. Imaginons, du point de vue basique, qu'un tel procès se tienne de manière équitable entre tous ceux-là qui sont aujourd'hui sujets. Et naturellement, certains ambassadeurs, officiers militaires, même ministres en activité, seraient aussi entendus. Est-ce allons-nous entendre des hommes et des femmes aujourd'hui qui sont au sommet de l'État, quitte à même provoquer de nouveau une sorte d'ébranlement des institutions de la République? Je pense que la situation, elle est difficilement, elle est difficile à commenter par le simple fait que la lecture exclusivement juridique ne nous aide pas à la comprendre, non plus la lecture uniquement politique aussi. Je pense que sommes-nous face à un phénomène qui a à la fois une dimension juridique et une dimension politique. On ne peut pas nier l'aspect politique.
Est-ce qu'il y aurait un arrangement, comme le pensent certains?
Le mot arrangement, vouloir l'écarter, je pense que c'est quand même un déni. Actuellement, c'est un déni. On sait pertinemment qu'aujourd'hui, le président Moussa Traoré s'est retrouvé dans la même posture, liberté provisoire. Je pense qu'il est toujours dehors. Il est étonnant que le général Amadou Hayat Sanogo, son procès ne soit plus repris d'ici à la fin du monde. Je pense que nous, qui sommes de simples observateurs, une telle liberté provisoire, lorsqu'elle est accordée à des personnalités d'une telle ampleur, c'est une liberté définitive.
Hein, d'accord. Maître Mokhtar Mariko, est-ce que vous craignez cette situation, que le procès de Amadou Hayat Sanogo n'ait plus lieu?
Ça fait partie d'une de nos inquiétudes. D'ailleurs, dans les communiqués que nous avons fait véhiculer, nous avons dit que nous prenons acte de sa libération, mais toujours sur nos principes de lutte contre l'impunité, nous voudrons que le procès aille jusqu'à son terme. Tous les procès doivent avoir une fin et nous demandons à la justice de fixer rapidement une date d'audience afin que Hayat Sanogo et autres présumés d'assassinats et de complicité puissent savoir, excusez-moi, dans quel sens ils doivent être mangés ou ils peuvent être mangés. Donc moi je pense que pour la crédibilité de la justice, il faudrait qu'on organise un procès au fond.
Et quand il s'agit de cet arrangement dont parlent certains Maliens, est-ce que vous pensez qu'il y a eu cet arrangement, notamment pour les victimes?
Non, il n'y a pas eu d'arrangement. C'est ce que j'ai dit. La lutte contre l'impunité comporte deux piliers essentiels. Le fait d'être jugé à travers un procès équitable et le fait aussi pour les victimes d'avoir réparation. Ce n'est pas pour rien qu'on a créé la CVJR. Quand vous regardez le travail de la CVJR, le système qui a été mis en place, c'est que les victimes viennent dire, et font des déclarations, disent de quelle infraction elles ont été victimes, et de l'autre côté, il y a le pan de la réparation. En tenant compte de tout ceci, on ne peut pas dire qu'il y a un arrangement, parce que la réparation fait partie de la lutte contre l'impunité. Et tous les fonctionnaires et agents de l'État qui sont en train d'être arrêtés, ce n'est pas par plaisir qu'on les met en prison, parce que l'État voudrait récupérer les montants qui ont été détournés. Donc dire que c'est un arrangement, c'est une façon de voir pas très loin les choses, quoi.
Êtes-vous d'accord avec Mahamadou Sanogo sur Facebook qui dit que l'État malien, la justice malienne, a montré son incapacité à juger le général et ses co-accusés?
Non, je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que il y a eu la mise en liberté qui fait partie des droits, qui fait partie d'un procès équitable. À partir du moment où ils sont restés,
mais déjà plus de 6 ans, plus de 6 ans, pourquoi le procès n'a pas pu avoir lieu?
Ok. Oui, mais parce qu'il y avait des raisons techniques. À Sikasso, quand on a été, Maître Konare était avec moi, c'est des irrégularités qui ont été soulevées. Nous avons dit à l'époque que ces irrégularités ont été déjà purgées par l'arrêt des renvois. Mais la Cour a estimé que ceux qui ont fait les tests ADN n'avaient pas prêté serment. Effectivement, ça c'est une violation de la forme du procès. Donc on devait reprendre les tests ADN et aller au procès. Et ce qu'on ne sait pas, et ce qu'on ne vous dit pas très généralement, c'est que le premier test est arrivé, il n'était pas concluant. Il a fallu revenir encore sur un second test. Donc, juste pour vous dire qu'il y avait de quoi à retarder ce procès.
D'accord. Maître Konare à la parole, êtes-vous d'accord avec M. Sanogo qui estime que l'État malien aujourd'hui est incapable de gérer l'affaire Sanogo?
Moi, je salue d'abord l'honnêteté intellectuelle de mon confrère Mariko, il vous dit deux choses. La première, c'est qu'il y a un processus d'indemnisation des personnes censées avoir été victimes de ce dossier, dans ce dossier. Ce processus d'indemnisation est un des éléments du règlement de l'affaire.
C'est ça qui pourrait être l'arrangement.
Il vous dit aussi, oui, si vous voulez appeler ça arrangement, deal, ou les mots foisonnent, mais toujours est-il que c'est une indemnisation. Ceux qui sont morts, M. Touré, ne peuvent plus se réveiller. Prions pour leur repos. Et si les victimes peuvent obtenir quelque chose d'intéressant pour leur survie quotidienne.
Qu'est-ce que vous appelez quelque chose d'intéressant?
Quelque chose d'intéressant. Oui, quelque chose qui leur agrée.
La justice n'est pas
intéressante. J'ai dit quelque chose, une indemnisation digne d'intérêt. Si les victimes peuvent obtenir ça, mais ça n'a rien d'illégal.
Mais pourquoi c'est pas
même,
un procès?
Non, mais vous
pourquoi
me laissez parler, oui, c'est prévu même dans le Coran. Quand la victime accepte le prix du sang, c'est prévu même par Dieu, à plus forte raison, par les législations des hommes. Vous savez, il faut avoir le sens de l'État. Vous savez comme moi que le Mali patauge aujourd'hui dans la plus grande instabilité. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'application égale de la loi à tous, pour la bonne raison qu'il y a des gens armés qui ne peuvent même pas être jugés par l'État, mais qui pourtant ont commis des crimes. Donc au lieu de pleurnicher sur ce dossier, parler d'arrangement, de ceci ou de cela, il faut regarder la réalité en face. L'État est aujourd'hui très faible, il n'a pas intérêt à ce que on s'éternise dans des procès. Et de surcroît, ceux qui ont été libérés avaient l'entier droit d'être libérés parce qu'ils ont fait 7 ans de détention préventive alors
dans
que
ce
la
cas,
loi
peut-on dire que ceux qui ont été
moi,
libérés...
Moi, je vous rappelle une petite histoire.
Oui, mais peut-on dire que ceux qui ont été libérés aujourd'hui ont profité de cette faiblesse de l'État que vous soulignez?
Mais il n'y a pas de justice ex nihilo, hein. Toute justice vit dans un contexte et dans un pays, ou bien. Moi, je vous cite un exemple historique. Il est arrivé que des insurgés tuent à Médine le calife Ousmane ibn Al-Affan, le calife de l'Empire islamique. Des insurgés sont venus jusque d'Égypte pour venir le tuer.
Oui, mais pour le cas du Mali
maintenant,
toujours,
est-ce que vous pensez que... Maintenant, son successeur Ali ibn Abu Talib, oui, paix à son âme...
Pour le cas du Mali toujours, est-ce que vous pensez que ceux qui ont été libérés...
L'histoire est éclairante.
Justement, mais on n'a pas suffisamment de temps, juste 45 minutes sur 75 radios.
Juste pour vous dire que...
Oui.
Quand des gens ont demandé que justice soit rendue à Ousmane ibn Affan en appliquant la loi du talion à ceux qui ont tué Ousmane, mais Ali leur a répondu: je suis un calife juste, mais aujourd'hui, la situation d'instabilité de l'État ne me permet pas d'appliquer la loi du talion.
Donc, vous pensez que l'instabilité au Mali ne permet pas la tenue du procès à Amadou Ayassane?
Ça ne permet pas.
Et est-ce que ceux qui ont été libérés ont profité de cette faiblesse?
Je ne l'ai pas dit.
Est-ce que ça a été le cas?
Je ne sais pas.
Est-ce que, M. Toumkara, vous pensez que c'est cette faiblesse de l'État qui a permis cette libération provisoire, la non-tenue du procès, disons?
Incontestablement, pour ne pas être avocat, moi je dirais oui, clairement. Je pense que c'est quand même important. Maître Konaré a mis en évidence deux éléments qui me paraissent importants, qui sont les contextes et la circonstance. Incontestablement, quand on regarde aujourd'hui l'État malien, se trouve quand même dans une situation de déliquescence à tout bout de champ. Et donc je voyais déjà mal comment ce procès allait être tenu de manière satisfaisante au regard des attentes qu'ont les Maliens, lesquelles attentes sont quand même légitimes. Hein. Mais je pense que la dimension arrangement quand même est un peu véhiculée par ce qu'on pourrait qualifier du bas peuple. Mais pareil, une hypothèse soutenable quand même, parce qu'on sait pertinemment que général Sanogo et les autres co-détenus sont ont été arrêtés dans des circonstances particulières, lesquelles circonstances devaient, effectivement, et puis attention, les moments de la libération trouvent aussi que la justice malienne, elle est en partie saluée par son courage, par les différentes arrestations auxquelles elle fait l'objet, mais si dans le même temps, cette même justice qui se montrerait égalitaire et équitable entre tous les citoyens, se donnerait à un tel jouet à géométrie variable. Nous qui ne sommes pas du domaine, naturellement, on va même s'interroger à en croire au propos de Maître Konaré, que même ceux-là qui seraient impliqués dans les malversations financières liées à l'achat des équipements militaires, aux avions cloués au sol, ne seraient pas inquiétés parce qu'ils sont quand même en plein exercice de leurs fonctions aujourd'hui. Donc je voyais qu'il est important, au-delà des circonstances et des contextes, que la question de la justice quand même reste quelque chose de partageable. Mais lorsque un nombre important de citoyens aurait ce sentiment que l'État serait à tout moment traversé par des questions de contexte et de circonstances, naturellement on va se demander si toutefois la justice malienne, elle n'est pas taillée sur mesure. Une telle hypothèse, je pense qu'elle est vraiment plausible. Aujourd'hui, quand vous surfez un peu sur les réseaux sociaux, lire les différents commentaires qui ont été émis ça et là, ce sont quand même des commentaires qui me paraissent légitimes. Ils viennent quand même de nombre important des Maliens, lesquels Maliens ne sont ni politiques ni militaires, qui souhaiteraient se retrouver dans un état où ils peuvent espérer une quelconque justice au cas où ils seraient effectivement face à des juridictions. Mais dans une telle libération, est-ce que peut-on imaginer en un instant que demain, les poursuites qui sont engagées contre les acteurs qui seraient impliqués dans les malversations liées à l'achat des avions cloués au sol, à l'achat des équipements militaires, que ces poursuites arriveraient à leur terme, je ne pense pas.
D'accord. Donc, et concernant cet problème de justice, il y a Bruno Sissoko qui pose la question sur Facebook. Il dit, est-ce que le ministre de la Justice en est pour quelque chose, pour qui connaît, comment ce dernier a occupé ce poste pour son premier passage au gouvernement? Ce sont ses mots. Est-ce que vous partagez son analyse?
Le parallèle, il est scientifiquement objectif. Incontestablement, on sait quand même que Maître Koulibaly a été un des lieutenants du général Sanogo pendant la transition, qui se trouve également aujourd'hui à la charge de cette institution de la justice. Naturellement, un tel lien, on peut l'établir du point de vue basique. Hein. Mais concrètement, est-ce que peut-on aussi dissocier un dossier d'une telle ampleur du politique? Je ne pense pas. Quel que soit le ministre qui allait être aujourd'hui à la justice, naturellement, il allait être influencé par le politique incontestablement. J'avais quand même dit à l'entame de mon propos qu'aujourd'hui, vouloir tenir coûte coûte un tel procès, vous allez quand même inquiéter ceux-là qui sont même au Parlement, qui sont dans nos ambassades à l'étranger, qui sont dans l'équipe gouvernementale. Donc vous voyez, l'État, il est quand même en face d'un dilemme. Même nous, aujourd'hui, on ne veut pas être à la place du président Ibeka, on allait se retrouver effectivement dans le même dilemme. Hein. Donc je pense que ce qu'a soutenu les deux maîtres, finalement, on a opté pour la solution la moins frustrante du point de vue politique. En fait.
Et justement, il y a certains qui estiment aussi, Maître Mokhtar Mariko, que cette libération était en fait un deal entre le président Ibrahim Boubacar Keïta et Amadou Aya Sanogo. Je viens au pouvoir, c'est ce qu'ils disent. Et après, vous serez libéré. Qu'en pensez-vous?
Moi, je ne suis pas politique. Je ne rentrerai pas dans ces conditions-là.
Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui à l'indépendance de la justice malienne dans ce cas?
La justice malienne est indépendante. Moi, je puis l'affirmer parce que nous sommes des avocats, nous assistons à des prises de décision qu'on aurait pu le confirmer. Malgré l'intervention de certaines autorités, des juges prennent les décisions qu'ils veulent prendre, excusez-moi. Donc, je ne rentrerai pas dans ce jeu. Mais je ne sais pas pourquoi on est en train de trop tergiverser sur cette liberté provisoire. Ça fait partie du code de procédure pénale. C'est prévu pour tous ceux qui sont privés de leur liberté.
Mais vous l'avez dit, Maître Konaré, que ça fait partie de vos inquiétudes que ce procès ne puisse plus se tenir.
Maître
Mariko, plutôt, pardon.
Non, nous l'avons dit parce que depuis 2013, nous le disons. Et personne ne pouvait croire en 2013 que Amadou Aya Sanogo pouvait être arrêté. Mais pourtant, la justice l'a fait. Et celui qu'on pensait être un des lieutenants de Aya, le juge Karambe, a insinué cette affaire jusqu'au bout et les a placés sous mandat de dépôt. Donc, je crois qu'on ne doit pas rentrer dans ces considérations. Contentez-nous à notre code de procédure et à notre code pénal, nous allons voir clair dans ce dossier. Et quand on vous dit que le ministre de la Justice était un lieutenant, je m'inscris en faux contre ça, parce que le ministre actuel, maître Maliki Koulibaly, était le premier secrétaire aux affaires juridiques et judiciaires de l'AMDS au moment où on l'appelait pour occuper le poste de ministre pendant la transition. Donc il n'avait rien à voir avec Aya. Je ne sais pas ce qui s'est passé en amont, mais au moment où on l'appelait pour être ministre, il n'avait rien, il n'avait aucun contact avec la junte militaire. Ensuite, vous savez que ce ministre-là s'est battu quand il était président de la Commission nationale des droits de l'homme contre le vote de la loi d'entente nationale, que nous avons appelée à l'époque la loi de désunion nationale. Il s'est battu pour ça. Et je ne vais pas anticiper, même quand ce dossier viendra au fond, nous avons fait un communiqué avec les autres avocats et la FIDH, si cette loi d'entente s'appliquait, Amadou Aya va recouvrer, il va être acquitté et recouvrer sa liberté. Maliki s'est battu contre ça. Donc, je crois que, entendons-nous à notre code de procédure pénale et procédure et le code pénal, nous allons trouver la solution. Mais si nous rentrons dans des supputations, dans des déductions, ça va encore envenimer la situation. Et ce n'est pas dans l'intérêt du Mali et ni dans l'intérêt ni des victimes, ni des accusés, ni de l'opinion publique nationale malienne.
Donc vous vous attendiez à ce que ce procès se tienne, mais d'ici quand?
Ce n'est pas moi qui l'organise. Nous, on les a bousculés. Si vous voyez que le procureur, à la clôture des assises de Bamako, avait dit que ce dossier est resté très longtemps, parce que nous, qui assistons les victimes, qui accompagnons les victimes, nous les avons harcelés. Harcelé le ministre de la Justice, harcelé le procureur, et voilà pourquoi on est arrivé à ces conclusions.
Maître Tshisolo Konare l'a dit, liberté provisoire, non, Tsanogo est libre, c'est le mot. Est-ce pourquoi?
Oui, la loi ne parle pas de liberté provisoire, c'est la pratique qui conduit les gens à parler de ça.
Est-ce que cela veut dire qu'il est désormais libre, plus de procès?
La loi parle de détention préventive, c'est-à-dire détenir quelqu'un avant son procès sur le fond. Maintenant, une fois libéré, il est libre.
Donc plus de procès.
S'il veut, il va à Paris. S'il veut, il va aux États-Unis jusqu'à son procès.
Ah.
Alors, je vous rappelle qu'il y a du beau monde dans la politique aujourd'hui et qui sont en liberté provisoire. Il y a du beau monde. Remuez un peu vos ménages et vous trouverez. J'en connais au moins 10. 10 leaders politiques qui ont été détenus, qui ont été mis en liberté et qui vont à leurs occupations. Les gens oublient le principe de présomption d'innocence. C'est une des bases du droit pénal et de la procédure pénale. Même si on vous prend en flagrant délit de vol, vous êtes censé être, être innocent jusqu'à votre jugement et à votre condamnation définitive par une juridiction pénale. Le même code de procédure qui prévoit de détenir préventivement quelqu'un prévoit la possibilité de pour cette personne d'être mise en liberté. Pourquoi est-ce que quand quelqu'un est détenu pendant si longtemps et qu'il est mis en liberté, on trouve à redire? Et puis moi, je vous invite à considérer une chose. Nous ne craignons nullement le fond du dossier. Si nous allons au fond du dossier pour statuer sur la question de culpabilité des accusés, nous avons des arguments. Et nous croyons en la justice. Nous croyons en ces arguments-là. Nous n'allons pas à ce procès éventuel en agneau du sacrifice, dépourvu d'arguments. Pas du tout. Et je termine en disant que les personnes les mieux qualifiées pour savoir si un arrangement leur profite ou pas, ce sont les parties civiles. Ce sont les familles des victimes. Maître Mariko, leur avocat, vous a dit qu'il y a un processus d'indemnisation qui est en cours et qui va leur profiter. si ces partis civils ont
donc
accepté...
Donc devrait-il se limiter
non,
à
si
cela
partis civils
et laisser
ont,
tomber le procès
si ces partis civils ont accepté cette indemnisation, ça va alléger la charge de passion qui pèse sur le procès. Comme ça, on ira à un procès dans des conditions sereines. Personne ne demande qu'il n'y ait plus de procès. Tout le monde veut au contraire qu'il y ait un procès, y compris les accusés qui ne veulent pas vivre éternellement avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête.
Docteur Ali Tunkara, certains s'interrogent sur cette libération à quelques jours de la tenue des élections législatives et donc de la fin d'un gouvernement de mission. Est-ce que vous pensez que ces interrogations se justifient ?
Elles sont légitimes, mais je pense qu'au regard des analyses faites par les deux maîtres, naturellement, on a un problème de concept, nous qui ne sommes pas du domaine. Détention préventive, liberté qu'elle soit provisoire ou pas, la notion d'indemnisation évoquée ça et là, tout cela ne colle pas aux attentes malheureusement qu'ont les citoyens majoritairement vis-à-vis de la justice. Maintenant, s'interroger sur les liens entre cette libération et la tenue des élections législatives, je pense que les liens n'est vraiment pas évident. Hein. Je vois mal ou en tout cas d'une possible composition d'une équipe gouvernementale, et le lien est difficile à établir. Et je vois mal aussi que dans l'immédiat, un général Hamadou ou un colonel, le colonel, j'imagine, hein, voilà, il ne faut pas les dégrader, soit membre de la future équipe gouvernementale. Je pense que le lien n'est pas évident. Mais ce qui est quand même important, c'est de comprendre déjà que nous avons importé des modes de fonctionnement, notamment sur le plan juridique, qui ne collent pas à nos attentes sociales. Voilà, quand vous prenez même la notion du droit dans nos langues nationales, voilà, pour nous, la vérité n'est qu'une. Or, à entendre les juristes, on se rend compte que la vérité est plurielle. Vous voyez que finalement, on se rend compte que l'appréciation que fait le citoyen lambda d'une telle libération et celle que fait le professionnel, naturellement, sont des appréciations tout à fait variées, variables. Donc je pense qu'il est extrêmement important aujourd'hui que les Maliens, notamment ceux qui sont aux commandes, acceptent ce genre de discussion, ce genre de débat, afin que l'opinion nationale puisse comprendre que, au-delà de vos attentes, effectivement, sommes-nous dans un cadre légal, laquelle l'égalité pourrait accorder des libertés qui ont été accordées antérieurement à des personnalités aussi importantes comme celle aujourd'hui dont on en parle. Donc je pense que ce décalage entre les locales et l'institutionnel juridique expliquer le pourquoi aujourd'hui tous ces bruits qu'on entendrait ça et là, quant à une telle liberté accordée aujourd'hui. Vous voyez, la notion même de provisoire, on vient de comprendre que c'est que par les habits que beaucoup sont arrivés à une telle conclusion hâtive. Donc, du point de vue juridique, apparemment, on n'a même pas associé liberté provisoire.
Certains estiment, Maître Konaré, que ce procès devrait être transféré à la CPI, la Cour pénale internationale. Est-ce votre souhait aussi ?
Pas du tout.
Pardon, monsieur Maître Marico.
Allô ?
Maître Marico ?
Ah non, ce procès ne relève pas de la compétence de la CPI. Parce que les infractions qui relèvent de la compétence de la CPI sont connues. Il s'agit des infractions comme les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, crimes d'agression. Et quand on regarde les éléments constitutifs de l'infraction qui est reprochée à Sanogo ne relève pas du tout de la compétence de la CPI parce que ce n'est ni un crime de guerre, parce que c'est des civils qui ont été enlevés soit au grain, soit sur les lits d'hôpital et qui après ont été exécutés. On ne peut pas du tout parler d'infraction, même d'infraction militaire, c'est des simples infractions de droit commun. Donc la CPI n'a aucune compétence. Et pour votre mémoire, au moment où le Mali signait l'accord de coopération avec la CPI en 2013, la question a été posée à Fatou Ben Souda. Et elle a répondu clairement que ces infractions ne relèvent pas de la CPI et que, mais dans tous les cas, la CPI aura un œil sur l'évolution de cette affaire.
D'accord. Aujourd'hui, vous dites que non.
Non,
qu'est-ce que vous craignez ?
La CPI, j'ajoute à ce que le confrère Marico vient de dire, que la CPI a une compétence subsidiaire. C'est quand l'État du Mali dira reconnaîtra qu'il ne peut pas juger du tout les Sanogo et autres, que la CPI pourrait retenir sa compétence si, bien entendu, elle pense que les crimes qui ont été commis sont des crimes de guerre ou des crimes de...
Mais quand vous dites qu'aujourd'hui, l'État malien est faible, ne devrais-je pas être le cas?
La faiblesse de l'État malien ne l'empêche pas de juger les accusés. Peut-être que ça l'empêche de les juger aujourd'hui. Mais peut-être qu'il pourrait être jugé en 2021. Peut-être qu'il pourrait être jugé lors de la prochaine session. Peut-être pas tout de suite. Donc vraiment...
Les victimes ne doivent-elles pas avoir justice maintenant?
Il y a beaucoup d'extrapolation. Vous savez... dans une affaire qui contient quand même des éléments hautement politiques, on ne peut pas empêcher les gens de s'interroger, de s'inquiéter, de poser des questions et de faire des commentaires. Mais moi, je vous dis tout simplement que la mise en liberté des accusés était de droit. Si ça peut contribuer de surcroît à l'apaisement au niveau national, eh bien, ce n'est que bénéfice. Maintenant, le procès lui-même se tiendra-t-il sur le fond? Nous pensons que oui, parce que nous-mêmes n'avons pas intérêt à ce que l'affaire reste en l'état. Il faut qu'on en termine. Et nous avons de sérieux arguments à faire valoir le jour où les débats de fond seront engagés. Mais tout cela ne m'empêche pas de vous rappeler que quand un État est dans une certaine situation d'instabilité, il est dangereux pour son existence de s'aventurer dans certains procès. Je vous ai cité
comme celui de Amadou
Ayassanogo. Je vous ai cité le cas de Ousmane Ibn Affan
comme celui de Amadou Ayassanogo au Mali.
Par le passé. Oui. Et c'est à force de vouloir la loi du talion que l'empire islamique s'est effondré.
Est-ce le cas pour le procès de Amadou Ayassanogo?
Quel cas?
Vous dites que quand l'État est en faiblesse, il est, je répète vos mots, il est difficile, il est anormal, si je résume, de tenir certains procès. Oui. Alors est-ce le cas pour le procès de Amadou Ayassanogo?
On peut décider d'affronter le danger. Il y a des gens qui chassent le lion. Voilà.
Docteur Ali Tunkara, alors cette liberté provisoire de Amadou Ayassanogo et co-accusé pourrait-elle avoir un impact sur le processus de paix et de réconciliation, de stabilisation du Mali?
Tout dépendra du rôle qui va être joué par ces différents acteurs dont il est question aujourd'hui. Incontestablement, quand vous échangez avec un certain nombre d'officiers militaires, ils vous diront que les tensions sont parfois perceptibles, lesquelles tensions seraient un peu liées à des considérations partisanes. Voilà. Donc je pense que tout va être joué dans les mois à venir, ou voire dans les années à venir, quel serait le rôle dévolu à ces militaires aujourd'hui dont il est question. Mais est-ce que voyez-vous un jour un officier du Béret Rouge répondre sous le commandement d'un officier qui serait, je dirais pas inféodé à général Ayassanogo, mais je pense que au lieu que ce soit une sorte d'apaisement, si l'on ne fait pas attention de ne pas succomber au charme du militaire, nous risquons de frustrer davantage les hommes qui sont aujourd'hui sur le front. Parce que j'ai quand même la chance de collaborer dans le cadre de mes recherches avec des officiers militaires. Dans les couloirs, on entend plein de choses concernant le dossier Amadou Ayassanogo et ses co-détenus, lesquels dossiers, malheureusement, aujourd'hui, il peut être utilisé dans le mauvais sens. Imaginons que, vous l'avez même évoqué à un moment donné, que le prochain remaniement, un proche du général Amadou Ayassanogo se retrouve
au sein du gouvernement.
Clairement, ça pourrait être même une sorte de frustration, au lieu que cela soit une sorte d'apaisement. Mais je pense que tout cela est moins important. Ce qui me paraît le plus urgent en termes d'attente qu'ont un nombre important de Maliens aujourd'hui, quelle communication ferait l'État central du Mali d'une telle liberté, si on ne va pas la qualifier de provisoire, mais c'est extrêmement important, parce que quand vous regardez un peu les difficultés de l'État central du Mali, ce sont déni de l'évident. On va continuer à rester silencieux, c'est un fait d'une telle ampleur. Je pense que la responsabilité de l'État central d'expliquer les droits positifs aux citoyens, que ces droits positifs, malheureusement, n'est pas compatible aux attentes culturelles, que ces droits positifs peine à avoir un ancrage local, parce que nous, citoyens ordinaires, nous pensons que la justice n'a pas à se circonstancer, la justice n'a pas à se contextualiser. Or, quand on se réfère effectivement à l'arsenal juridique, on se rend compte que le contexte et la circonstance sont des éléments importants qui la caractérisent.
Ah, Maître Mokhtar Mariko, alors pensez-vous que cette libération peut être source d'apaisement ou de tension au sein de l'armée malienne ?
La question, je crois que c'est plutôt aux politiciens qui voudraient vraiment poser cette question. Parce que moi, quand je me cantonne tout simplement à mon dossier, je n'ai pas d'autre développement. Je n'ai pas d'autre développement que de maintenir uniquement à mon dossier.
Et mais les victimes ont-elles accepté cette libération ?
Les victimes ont pris acte de cette libération.
L'ont-elles accepté?
Okay. Mais certainement. Est-ce que vous avez entendu une victime sortir pour dire on n'est pas d'accord? Non, parce qu'on leur a expliqué le contexte. Parce que nous les accompagnons depuis 2013. Nous les avons expliqué qu'il vaut mieux aller vers l'acceptation de certaines propositions plutôt que de rester les bras vides. Je m'explique, parce que vous avez en face des soldats insolvables, qui sont vraiment insolvables. Si une condamnation venait à tomber contre ces soldats et que l'État refuse de reconnaître sa garantie pour payer les condamnations qui seraient prononcées contre ces soldats, les victimes sortiront les mains vides. Comme il y a une jurisprudence dans le temps, je parle du procès de Moussa Traoré, les victimes ont été indemnisées par l'État. J'ai dit, rien ne nous empêche d'aller vers cette main tendue du gouvernement qui voudrait abréger et vous soulager dans votre souffrance.
D'accord. Il nous reste 3 minutes, 1 minute pour chaque invité. On commence par vous, Maître Mariko. Quelles sont aujourd'hui les attentes de ces victimes par rapport à la tenue de ce procès de Amadou Aya Sanogo et co-accusé?
Oui, les attentes des victimes sont très simples. Hein. À partir du moment où il y a cette loi d'entente qui va bénéficier, dont Amadou Aya et autres sont éligibles, les victimes disent tout simplement, à partir du moment où la réparation fait partie d'un des piliers de la lutte contre l'impunité, nous acceptons d'aller vers ce chemin afin que les ayants droit, c'est-à-dire les héritiers qui sont en train de grandir, sans peur et sans soutien, que ces héritiers puissent bénéficier de ces avantages et que ces héritiers puissent bénéficier d'une éducation et tout ce qui s'ensuit.
D'accord. Merci, Maître Mariko. À vous, Maître Cheikh Marc Honarié. Aujourd'hui, quelles sont vos attentes?
Moi, mes attentes, c'est qu'il ne faut pas souffler sur les presses. Maître Mariko vient de vous le dire et il a parfaitement raison. Si nous, la loi pour la loi ne vaut rien, si nous devons juger des gens, supposons que les accusés soient condamnés à mort.
Pensez-vous qu'il faut qu'il y ait justice aujourd'hui?
Supposons qu'ils soient condamnés à mort, oui, et à payer même 10 millions à chaque victime. Où est-ce qu'ils vont trouver ces sous-là?
Pensez-vous aujourd'hui qu'il faut qu'il y ait justice?
Donc il faut que l'État s'en mêle, qu'il y ait un jugement et que les victimes soient indemnisées par l'État.
D'accord, rapidement, voilà. Quel
la
va
loi,
être
la
l'impact
loi d'entente nationale dont Maître Mariko vient de parler est
merci,
extrêmement
merci, le temps nous fait défaut. Quel va être l'impact de cette libération de Amadou Aya Sanogo et co-accusé sur la coopération internationale?
Alors, l'incidence du point de vue international, ça va dépendre. Est-ce sur le plan sécuritaire, ça pourrait bouger un peu les lignes? Je ne pense pas. Peut-être que là où l'on peut, à la limite, sentir l'incidence, ce serait un peu du moment où les victimes se contenteraient de la dimension argent, je pense que un tel contentement pourrait apaiser un peu les tensions. Peut-être qu'au bout du tunnel, le dossier Aya Sanogo serait un passé à la limite nostalgique, quoi.
Merci Dr Ali Tunkara, sociologue. Maître Mokhtar Mariko, avocat des victimes, était au téléphone, et Maître Cheikh Oumar Konaré, avocat de la défense. Merci à tous, à la régie vidéo et audio, Seydou Ndao et Mamadi Keïta. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba.